Eh bien, bonjour Mickaël, bonjour aux auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans ce libre journal de géopolitique profonde. Nous sommes en direct le 25 juillet 2026, il est 9h. Voilà, je remercie donc Mickaël pour la réalisation de cette émission. Patrice qui est au standard et donc qui pourra répondre à vos questions, remarques, observations, n'hésitez pas à lui poser vos questions, soit par téléphone, le plus simple étant par courriel électronique, et par ce biais-là, eh bien, cela nous sera transmis par la technique et ou par d'ailleurs Patrice, notre bénévole, fidèle au poste. Ici, il sera fidèle au poste durant tout l'été, on l'en félicite, et nous répondrons avec mon invité. Évidemment à toutes les interrogations qui pourraient être les vôtres dans cette émission. Voilà, donc pas de Lara Stam ce matin, qui est en ce moment même dans la matinale de Géopolitique Profonde sur YouTube, et donc eh bien je serai seul à bord avec eh bien mon invité pendant 7h30, ce qui ne m'empêchera pas de dire un mot en introduction tout de même concernant eh bien l'actualité, et nous passerons ensuite eh bien à l'interview de Chantal Lebrument. Chantal Lebrument, qui est mon invitée, qui est présente dans le studio et que je salue tout de suite. Bonjour ma chère Chantal, bienvenue dans ce libre journal de Géopolitique Profonde sur Radio Courtoisie. Bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Voilà, vous êtes co-auteur, entre autres, d'un livre, Louis Pouzin, l'un des pères de l'Internet. C'est bien ça?
Tout à fait.
Édition Economica?
Exact.
Très voilà bien. Voilà le livre. Voilà, très bien. Voilà, donc vous en êtes la co-autrice. Voilà. Eh ben, ça donne le titre tout de suite finalement de ce que sera l'émission du jour, c'est-à-dire Louis Pouzin, l'un des co-créateurs, co-fondateurs, l'un des pères de l'Internet, personnage français, méconnu, et que justement Chantal Lebrument eh bien, cherche à assurer une notoriété ô combien amplement mérité. Donc nous allons revenir sur les origines d'Internet et sur cet ingénieur, inventeur de génie qui fut Louis Pouzin. Qu'est Louis Pouzin d'ailleurs? Pourquoi je dis que fut? Il est tout à fait toujours parmi nous. Voilà. Mais ce n'est pas lui qui sera eh bien, ce matin dans cette émission, mais Chantal Lebrument. Très bien. Alors, écoutez, chers auditeurs, quelques mots peut-être pour débuter cette émission sur vraiment une très très courte revue de presse. Vous l'avez tous remarqué. Et oui, après le narratif de la canicule, voici venu, on s'y attendait, je l'avais non pas prophétisé, c'était tellement évident, annoncé avant même l'été, en disant voilà, on va nous faire le coup de la canicule, et puis après vous allez avoir les méga-feux, les incendies. La France qui brûle, la France qui brûle, eh bien c'est le titre même d'ailleurs du titre du Parisien de ce matin, la France est en feu. La France est en feu, avec un narratif absolument terrible, même si évidemment la situation peut paraître complexe avec l'évacuation de nombreux villages autour, entre autres de Bordeaux. Eh bien, il nous est fait référence dans le titre du Parisien, avec cette France en feu des deux ogres de l'été. Eh bien, ce n'est pas Poutine cette fois-ci l'ogre, c'est l'autre ogre, c'est le réchauffement climatique de nature anthropique qui génère donc canicule et feu. Et donc, nous avons les deux ogres de l'été en Gironde et dans les Landes, qui ont donc dévoré plus de 22 000 hectares de forêt en trois jours, avalé, hein, comme un ogre, des dizaines de bâtiments et entraîné l'évacuation de dizaines de milliers de personnes. Ces deux feux convectifs se nourrissent eux-mêmes, attisés par des vents forts et changeants. Ce matin, les flammes se rapprochent de Bordeaux et de nouvelles évacuations sont en cours dans le Var. L'incendie qui a détruit 2 700 hectares n'est toujours pas maîtrisé. D'autres feux se sont déclarés hier dans les Pyrénées-Orientales, le Tarn, la Lozère et les Hautes-Alpes. Donc voilà, la France est en feu. On va nous en parler durant tout l'été en boucle sur les chaînes d'information. On s'interrogera finalement assez peu ce qui était la grande différence par rapport aux feux de forêt qui ont toujours existé, et en particulier l'été, où je me souviens, enfant, regardant le journal de 13h, la grande interrogation des journalistes de l'époque, quand il y avait des feux, c'est qui a provoqué ce feu ? Quel est le pyromane qui a provoqué ce feu ? Et il y avait cette traque au pyromane, ce qui était somme toute assez logique, c'est l'origine matérielle du feu qui importait le plus. Mais non, tout ça c'est fini. Maintenant, vous avez des experts qui se relaient sur les chaînes d'infos pour vous expliquer que tout ça est lié, bien sûr, au réchauffement climatique de nature anthropique. Alors, lorsque vous avez de terribles tempêtes l'hiver, lorsque il fait froid, très froid, on ne peut pas nous dire qu'il y a réchauffement climatique. Alors, dans ces cas-là, on nous parle de changement climatique. Mais on voit le narratif s'adapte, narratif idéologique de propagande s'adapte à la situation. Que l'on ne me fasse pas reproche d'être insensible à ce qui se passe sur le bassin d'Arcachon, à ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national avec toutes ces flammes, dont sur lequel, par contre, on devrait commencer par s'interroger du pourquoi. Certes, il fait chaud, il fait sec, et donc il est facile d'allumer un feu, ah ça certes, mais néanmoins, on pourrait s'interroger, est-ce que c'est d'ailleurs une action à chaque fois individuelle ou des actions concertées? Quelle en est la raison? Il n'y a-t-il pas une sourde volonté de détruire, de mettre à feu ce pays qu'est la France? Après tout, nous avons pu constater feu de cathédrales, destruction en tout genre, et bien que la France aujourd'hui semble être dans le collimateur et elle ne fait pas que brûler, même si là, et bien c'est cet épisode qui est en jeu, qui permet d'ailleurs à Emmanuel Macron de jouer le narratif européen. Vous savez, c'est un classique chez Macron, il est en campagne européenne, il a toujours fait ça dans sa vie, c'est-à-dire qu'il s'est servi des positions qui étaient les siennes comme marchepied, comme tremplin pour en ambitieux, en super ambitieux qu'il est, à l'échelon supérieur. Et l'échelon supérieur pour Macron aujourd'hui, bien sûr, c'est l'Union européenne, c'est la présidence, l'Empire européen. Hein. Rien ne résiste à l'ego boursouflé, surdimensionné du foutriquet national, du perruquet de l'Élysée. Et il joue donc là-dessus, il joue sur le fait d'expliquer aux Français il a lancé le mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Il l'a activé, ce qui lui permet de dire que nous allons pouvoir compter rapidement sur le renfort de 2 Canadair croates, de 2 air tracteurs portugais, ainsi que de 2 hélicoptères lourds Black Hawk, tchèques et slovaques. Hein, on nous parle évidemment de cette Europe, ce qui lui permet de mieux faire passer comme ça la pilule de notre dissuasion nucléaire bradée, avec la dissuasion avancée, bradée à l'ensemble de l'Union européenne. Voilà, donc il joue là-dessus, il joue sur le feu, chacun y va, les uns c'est le réchauffement, les autres vivent l'Europe. Tout est récupération, voilà. Tout est amalgame, c'est un grand classique. Hein, on le sait, les commissaires politiques sont toujours à crier le pas d'amalgame, sauf évidemment quand ça les arrange, où là, eh bien, la récupération politique est totale. Ils espéraient récupérer politiquement, en tout cas à l'Élysée, la victoire de l'équipe de France au Mondial de football. Pas de chance, puisque dimanche dernier, eh bien, c'est l'Espagne qui a été couronnée au grand dame de Donald Trump, du bonhomme orange qui a été obligé de remettre la coupe aux Espagnols qu'il voue aux gémonies par ailleurs actuellement sur le plan géopolitique. Donc vous avez eh bien, cette récupération systématique que l'on retrouve avec ces feux de forêt, ce qui, encore une fois, ne dit rien, évidemment, de la catastrophe en cours, qui n'est pas négligeable, bien évidemment, ainsi que l'ensemble des personnes qui sont obligées de quitter leur foyer, leur domicile. Donc ça, on le prend tout à fait en considération. Par contre, on ne peut pas ne pas noter la récupération politique permanente et idéologique de ce feu, pas plus que de s'interroger sur les origines de ces derniers. Voilà, ça c'est bien sûr l'actualité majeure qui, à mon avis, sera l'actualité majeure durant tout l'été. Il faut s'y attendre, s'y préparer, en tout cas il fallait s'y préparer. Qu'est-ce que l'on peut dire dans l'actualité ? Bon, bah, l'actualité, évidemment, c'est la guerre au Moyen-Orient, hein, la guerre au Moyen-Orient qui s'étend avec le détroit de Bab-el-Mandeb, avec la mer Rouge et l'entrée dans la danse des Houthis. Les Houthis du Yémen qui revendiquent encore une attaque de missiles ce matin contre l'Arabie Saoudite. Il y a une guerre qui s'est engagée entre l'Arabie Saoudite et les Houthis et des frappes sur l'ensemble des cargos saoudiens dans la mer Rouge. Donc en plus d'avoir maintenant le détroit d'Ormuz, vous avez un problème avec le canal de Suez et avec le détroit de Bab-el-Mandeb, donc la mer Rouge, ce qui est le golfe Persique, ce qui évidemment commence à être extrêmement inquiétant quant aux routes du commerce international qui a donné cette mondialisation et aussi ce mondialisme qui aujourd'hui domine en Occident et qui est menacés comme jamais, comme sont menacées les bases américaines dans le Golfe. Donc nous sommes dans une espèce d'impasse, double impasse sur le plan géopolitique, hein, dans le livre Journal de Géopolitique Profonde, rappeler cette double impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, impasse au Proche et Moyen-Orient, impasse aussi en Ukraine, où dans les deux cas de figure, il faudrait aller à la table des négociations, il faudrait la paix, il faudrait des pactes de stabilité, ce que d'évidence ne veulent pas les Occidentaux, je suis obligé de le dire, hein, et c'est surtout vrai en Ukraine. Les Russes demandent depuis fort longtemps justement un pacte de stabilité au niveau européen, une architecture de sécurité commune. Or, celle-ci, n'est jamais validée par des Européens qui rêvent d'une situation à la coréenne en Ukraine, permettant ainsi d'attiser toujours plus les feux de la guerre avec, un Zelensky qui annonce que la Russie préparerait une mobilisation militaire pour l'automne supplémentaire. On est toujours dans ces narratifs de guerre qui trouvent un retentissement en France avec la très pathétique information comme quoi le ridicule, le misérable Édouard Philippe, maire du Havre, candidat à l'élection présidentielle française, tenez-vous bien, aurait été visé par une opération de désinformation russe. C'est les Russes, une première pour un candidat à la présidentielle 2027, comme ça tombe bien, hein, puisque avant-hier, le petit Nounès, qui est plutôt au feu actuellement, le ministre de l'Intérieur a lancé une commission soi-disant indépendante sur l'ingérence extérieure, puisque évidemment, on va réguler l'élection, et si le résultat ne vous plaît pas, ne leur plaît pas, ne plaît pas aux élites mondialistes, ils n'hésiteront pas en France, comme ils souhaitent le faire aussi en Allemagne, à cette occasion, s'assurer de la correction des élections. Regardez ce qui s'est passé en Roumanie, où celui qui avait gagné le premier tour de l'élection a été empêché de se présenter au deuxième tour, assigné à résidence, arrêté en pleine rue, alors qu'il allait déposer son dossier de candidature. C'était Calin Georgescu, c'est ça, l'Europe, comme Peter Magyar, qui aujourd'hui est en train de faire régner un ordre de type dictatorial en Hongrie, depuis qu'a été remplacé Viktor Orban. Mais non, c'était Viktor Orban, bien sûr, le dictateur d'un régime illibéral, alors qu'en réalité, c'est cette prison des peuples qu'est l'Union européenne qui aujourd'hui se comporte de la pire des manières, en soutien d'ailleurs, systématiquement avec ces régimes. Voilà, donc récupération systématique, politique, permanente, tout comme donc avec les Russes qui seraient responsables d'une intrusion dans le processus électoral. Édouard Philippe étant à la traîne politiquement, c'est un petit coup de pouce que lui donne le système. On termine rapidement cette revue de presse par les vitraux de Notre-Dame. Les vitraux de Notre-Dame, eh bien, c'est Claire Tabouret, l'occultiste, pour la grande satisfaction évidemment du couple Macron qui est à l'origine de cette passation de marché. On rappelle les magnifiques grisailles de Viollet-le-Duc qui avaient échappé miraculeusement à l'incendie de Notre-Dame seront quand même remplacés, et ce pour une somme faramineuse, alors que bien que nombre d'églises, de cathédrales auraient bien besoin d'être restaurées aujourd'hui, eh bien non, là, c'est le fait du prince, le caprice de Brigitte et de Manu qui est eh bien mis en avant avec ses vitraux contemporains qui séduiront même, d'après Madame Catherine Pégard, hein, la ministre de l'amie de Jeffrey Epstein, la ministre de la Culture aujourd'hui, Catherine Péjard, qui dit eh bien, même les esprits les plus négatifs seront séduits par ces nouveaux vitraux. Eh bien, je crois qu'elle s'avance un peu vite. On la voit avec Claire Tabouret. Voilà, l'occultiste Claire Tabouret. Il y aura prochainement de notre amie Nikita Miralkov, eh bien, un grand reportage en Russie qui sera sur ce sujet, sur l'occultisme de Claire Tabouret, artiste plus que controversée, vivant en Californie, près de Los Angeles. Eh bien, nous reviendrons sur ce qu'elle a voulu signifier au travers ces vitraux qui sont censés représenter la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint, et on est en droit de se demander ce qu'elle a réellement voulu signifier, et est-ce qu'il n'y a rien de satanique et d'occultiste derrière cela. Eh bien, on peut se poser la question, sachant qu'il y a cours encore, il faut le savoir, devant le tribunal administratif de Paris, des associations de défense du patrimoine, SOS Paris, Cité Monument, qui contestent le bien fondé de la commande de vitraux et qui ont déposé plainte devant le tribunal administratif de Paris. On attendra évidemment le résultat cela avant d'imaginer définitivement la pose de ces vitraux prévus pour le mois de décembre 2026. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai fait rapidement un point d'actualité. Je n'ai pas eu bien l'habituel Lara pour rebondir sur chacune de ces informations. Ça sera en général plutôt comme ça. Voilà, alors, eh bien écoutez, merci en tout cas déjà de cette première écoute. Nous allons maintenant pouvoir débuter la grande interview avec eh bien, notre invité Chantal Le Brument. Je rappelle Chantal Le Brument qui est l'auteur de ce livre sur Louis Pouzin, l'un des pères de l'Internet, avec Fabien Soyer et Chantal Le Brument, une préface de Corben. Louis Pouzin, l'un des pères de l'Internet, aux éditions Economica, si vous voulez vous procurer, chers auditeurs, cet ouvrage. Est-ce que vous pourriez déjà, eh bien, ma chère Chantal, nous faire une courte introduction justement sur ce livre, sur vos travaux, peut-être débuter en nous expliquant qui est Louis Pouzin. Je crois qu'il est le cœur de votre livre, donc ça serait assez logique de commencer, si vous le voulez bien, par lui.
Tout à fait. Donc Louis est un ingénieur ingénieux qui n'a pensé qu'à une chose de toute sa vie, c'est les réseaux. Comment développer les réseaux, comment faire des choses pour que les humains se connectent et se connectent le plus facilement possible. Donc Louis est un jeune garçon né au fin fond de la Nièvre, dans une petite commune, dans une famille, dans une scierie, donc un milieu assez pauvre. Et Louis est quelqu'un de très très intelligent, donc il se fait remarquer. Et que les parents, en se saignant, arrivent à envoyer en région d'Île-de-France pour préparer les grandes écoles, les concours. Donc il est envoyé à Geneviève, qui est donc la grande école qui existe toujours à Versailles pour préparer les concours. Et Louis est reçu dans les premiers à Polytechnique dès la première année. Donc Louis est un X, X50, un polytechnicien qui est rentré dans les premières polytechniques et sorti dans les derniers parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était pas les maths, c'était les réseaux. Or, à l'époque, dans les années 50, les réseaux, personne n'en parlait, il n'y avait aucun avenir. Et il a fait sa petite vie, il est passé d'une société à l'autre, il était très, lui est toujours très, très facétieux, il recherche les petites choses et c'est vraiment un inventeur dans l'âme. Or, Louis a donc découvert les réseaux, mais de façon extrêmement empirique, puisque à l'époque, ça n'existait pas. Il a réussi à aller passer normalement 6 mois aux États-Unis, à Boston, au MIT de Boston, par un échange. Il avait rencontré le directeur du MIT Boston dans une foire à Francfort, je crois, en Allemagne, et lui avait dit, ben, moi, ce que vous faites là-bas, j'aimerais bien venir voir parce que ça m'intéresse. Bon, il a appris à parler anglais, ce qu'il n'avait pas fait avant. Il est parti là-bas. En fait, il est resté là-bas pendant plus de 2 ans et demi. Et au MIT Boston, où il a participé à une grande aventure qui est l'aventure du temps partagé. Donc, c'est-à-dire que les gens ne savaient toujours pas, à l'époque, la technologie ne permettait pas de faire partager des informations d'un ordinateur à l'autre. Les ordinateurs étaient évidemment très basiques. Tout marche avec des cartes perforées. Donc, lui, il adorait ce milieu de recherche. Il adorait travailler la nuit. Il a toujours aimé travailler la nuit parce qu'il était tout seul, tranquille.
Souvent, les informaticiens sont comme ça, hein. Ce sont
Voilà.
des oiseaux de nuit.
Exactement. Lui, toute sa vie, a travaillé la nuit. Il dormait 4-5 heures après pour rattraper, mais il adorait travailler la nuit. Donc, la nuit au MIT, il collectait les cartes perforées de ses collègues pour leur sortir leurs travaux. Et en fait, bon, il s'est posé plein de questions dès le départ. Il était quand même très jeune. Il était jeune marié avec 2 enfants. Et il a réussi donc à inventer quelque chose que tout le monde connaît, même si on n'est pas tout à fait informaticien, c'est le langage Shell. C'est lui qui l'a inventé au
Alors,
MIT.
expliquez-nous ce que c'est que le langage Shell.
Eh ben, c'est la concaténation de plusieurs ordres avec une seule de plusieurs données et avec un seul ordre tout sort. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une carte perforée que l'on met dans la machine et puis on attend pendant 6 heures que ça mouline, eh ben, on met toutes les cartes perforées, on fait un programme et le programme sort tous les travaux pratiquement immédiatement. Donc ça a été une grande nouveauté. Donc évidemment, le MIT voulait pas trop que Louis parte. Ils auraient bien voulu le garder pour faire sa carrière là-bas. Mais Louis avait trop envie de rentrer en France pour aider ses enfants. Trouvait que les petits Américains étaient très mal élevés, que c'était l'enfant roi, etc. Ça lui plaisait pas du tout, du tout. Donc il est rentré en France avec femme et enfant. Et là, il a commencé à faire sa carrière en parlant justement de ce temps partagé, du Shell qu'il avait inventé, etc. Il a fait plusieurs sociétés et pour faire court, il faisait des présentations de ce qu'il faisait. Et à un moment donné, il était dans une société qui est un peu connue, qui s'appelle Simca, qui s'appelait Simca, où il avait quand même réussi à mettre Bull et IBM en dehors de la société parce que ce qu'il proposait était trop cher et lui avait trouvé sur le marché des matériels qui étaient moins chers et qui fonctionnaient aussi bien. Donc, ce n'était pas l'open source, mais ça y ressemblait quand même un peu. Et donc, Louis a présenté ça plusieurs fois et dans un colloque, il a présenté ça et dans la salle, il y avait quelqu'un à qui on avait dit le plan calcul de Gaulle lancé par Pompidou. On aurait besoin d'un chef de projet qui est un peu original, qui connaisse les développements états-uniens, qui connaisse l'informatique, etc. Et cette personne a dit tout de suite, bah oui, évidemment, Louis Pouzin. Donc, le cousin a été donc intégré au plan calcul et
Ouais.
il a eu pour mission de développer un réseau
Donc
informatique.
ça, c'est dans les années 60?
Oui, c'est dans les années 60, oui, le plan calcul. Oui. Oui. À la fin des années 60.
D'accord. Oui, vous pouvez continuer, oui, sur le plan calcul, son intégration.
Voilà, donc le plan calcul, donc, ben, c'est bien déroulé. Donc Louis a embauché une équipe qui est en fait, Louis est quelqu'un de très fidèle. Donc quand il donne son amitié, c'est vraiment pour la vie. Quand il a confiance en quelqu'un, c'est pour la vie aussi. Donc il a embauché pratiquement les gens avec qui il avait travaillé dans d'autres projets avant, dont par exemple celui de Météo France. Louis a créé le premier logiciel de Météo France qui s'appelait Météos, et un
Oui.
logiciel que Météo France a gardé pendant 15 ans.
D'accord.
Donc, et qui était le premier logiciel qui donnait la météo en temps réel. À l'époque,
D'accord.
c'était une illusion, ça ne se faisait pas. Donc les gens avec qui il avait fait ce logiciel, trop rapidement, puisqu'il avait fini en 18 mois alors que c'était prévu sur beaucoup plus de temps que ça. Donc, il les a réembauchés au plan calcul pour faire donc ce projet qui s'est appelé le projet Cyclades.
Alors, expliquez-nous ce fameux projet Cyclades.
Alors, Cyclades, c'est le nom un peu des îles grecques, les Cyclades, qui font
D'accord, c'est lié à
partie de
ça.
la Grèce, oui, qui sont des
Donc,
petits
Cyclades, Cyclope.
territoires. Non, 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 Cyclades, les îles Cyclades. Donc, qui sont des territoires très
D'accord.
éparpillés et qui, en fait, font partie d'un même pays. Donc, l'idée, c'était de faire un réseau qui ne soit pas tributaire de majors de l'informatique comme IBM, comme autres, et qui surtout passe dans tous les matériels, qu'on ne soit pas obligé d'avoir un matériel fourni et surtout qui ne soit pas bloqué, où il n'y ait pas des bouchons. Si on envoie des informations du point A au point B, ben, s'il y a un bouchon au milieu, tout s'arrête. Donc lui, il a inventé ce qu'on appelle le datagramme. Donc c'est un principe de faire transiter les informations par petits paquets et qui
D'accord.
sont de façon aléatoire partout un peu ça passe là où il y a de la place. On ne peut pas savoir où ça passe. Ça passe de façon aléatoire. Et ce qui donne donc le datagramme, c'est la base de notre Internet que nous utilisons tous les jours. Mais c'était un projet. C'était un projet. C'était pas Et il a pas, Louis n'a pas dit je vais développer un Internet mondial, pas du tout.
Oui.
Il a développé le datagramme, il avait des projets pour ce datagramme, et donc il y avait plein, plein de circonstances qui font que ça prenait du temps évidemment, mais enfin bon, il avançait quand même assez vite. Et hélas, patatras, changement de président de la République, Pompidou meurt, Giscard arrive, et Richelieu
Oui.
avait dans ses valises un monsieur qui a été après le numéro un du patronat français, qui l'était déjà un petit peu, Ambroise Roux. Et Ambroise Roux, lui, eh ben, son métier, c'était de fabriquer des pièces pour les Minitel,
Oui.
pour le futur Minitel. Donc,
Ah, c'est une autre option, le Minitel, que
voilà.
l'Internet, évidemment.
C'était quelque chose de très Frenchy, très français, franco-français.
Oui, qui a été considéré, salué comme étant un succès français d'ailleurs à l'époque. Hein.
A été un bon succès et qui a été très, très utile à la population. Louis
Oui.
avait des Minitel, il adorait le Minitel, Louis. Hein. Mais il n'empêche que il y a donc Louis, quand même, une personnalité qui ne se fait pas que des amis parce que quand il a une idée, il la tient, son idée, il n'est pas du tout. Et il ne sait pas courber l'échine, Louis. Et il dit toujours ce qu'il pense, toujours. Avec le sourire et avec beaucoup d'humour, donc ça passe. Mais Louis dit toujours ce qu'il pense à tout le monde. Donc ça ne plaît pas à tout le monde, évidemment. Donc le projet Cyclades a été arrêté assez rapidement, mais de façon un peu surprise, parce que le projet Cyclades fonctionnait. Donc c'était un réseau européen. Il y avait des contrats qui étaient en train d'être signés, il y a des contrats qui existaient avec les Allemands notamment. L'idée, c'était de faire un peu un Airbus de l'informatique. Et cet Airbus de l'informatique était sur de bonnes voies, puisque Il y avait déjà des universités en Angleterre, en Europe, partout en Europe
Est-ce qu'on était encore dans le cadre du plan calcul?
Oui, bien sûr, c'est le plan calcul qui a été
C'est
arrêté. C'est
Cyclade,
pas...
le plan calcul, voilà.
Voilà, c'est le plan calcul qui a été arrêté. Ce n'est pas forcément Cyclade. Cyclade
Oui.
était, faisait partie, hélas, des choses qui ont été mises à la poubelle. Mais c'est le plan calcul qu'on a mis à la poubelle.
Alors pourquoi finalement on a mis ça à la poubelle?
Alors, moi, je n'ai pas vraiment d'infos plus que vous là-dessus. Louis a toujours pensé que c'était parce que Ambroise Roux avait des ambitions différentes et que lui, ce qu'il voulait, c'était mettre ses sociétés dans l'informatique en France et prendre le pouvoir par l'informatique en France. Mais le résultat, il est là. C'est-à-dire que bon, les gens au pouvoir ne voyaient, n'avaient aucune vision, ne se rendaient pas compte du tout de ce qui était en train de se passer. À l'époque, on parle de l'Airbus de l'informatique, mais à l'époque, évidemment, ça ne voulait rien dire pour eux, ça n'existait pas. Donc le résultat, c'est que sur un salon en Allemagne, je crois, quelqu'un a dit à lui: « Ah, vous êtes au courant, le plan calcul est arrêté. » Ah bon? Non, je ne sais pas. Et puis Cyclade aussi est arrêté. Ah bon? Dit Louis, n'était pas du tout au courant. Donc ça a été vraiment un grand choc pour lui et pour tous les acteurs du plan de Cyclades qui étaient en train de signer des contrats, notamment les Allemands en ont beaucoup, beaucoup voulu à la France parce que eux, ils s'étaient vraiment investis dedans. Donc, il y a une perte de confiance absolument terrible dans les décisions du gouvernement français et de la part des Allemands dès l'arrêt de Cyclades. Donc, Cyclades, ben, Louis a continué quand même. Il a continué à avoir un peu de sous, ça s'est pas arrêté, on n'arrête pas un plan du jour au lendemain comme ça. Donc,
Oui.
il a continué pendant 2 ans,
D'accord.
jusqu'à temps qu'il puisse plus payer ses équipes. Il a
D'accord.
aidé ses équipes à se reclasser à droite, à gauche. Lui-même, à la fin, bah, il a bien fallu qu'il trouve un job. Donc, il est parti ailleurs pour faire une autre carrière. Et le plan le Cyclades ben, c'est resté dans les tiroirs.
Ce
Mais
qui fait que ben, nous a...
pendant les
Allez-y.
2 ans où Louis a su que c'était foutu, et il a dit: « Je vais pas laisser périr ça comme ça. » Donc les Américains sont venus plusieurs fois le voir dans ses bureaux de Roquencourt qui étaient à l'IRIA à l'époque. Donc Bob Kahn et Vinton Cerf, ils sont venus le voir plusieurs fois, dont une fois pendant toute une journée où Louis leur a expliqué ce qu'était Cyclades, leur a tout expliqué. Il a même envoyé un de ses ingénieurs qu'il trouvait particulièrement brillant pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, dans le bureau de Vinton Cerf pour que Vinton Cerf développe Cyclades et que le projet ne meure pas. Et de fait, les Américains, ils n'ont pas tout compris de ce que Louis avait fait dans Cyclades. Par exemple, il y avait une couche sécurité, ils ont trouvé que c'était complètement sans intérêt dans les années 70, la couche sécurité. Donc, ils ont développé TCP/IP, qui est l'Internet que nous utilisons tous les jours, avec la base du datagramme, donc les travaux de Louis, avec l'aide des ingénieurs de Louis, mais ils n'ont pas développé le datagramme tel que Louis l'avait prévu, parce que ben, ils voyaient eux ce qui c'était eux les Américains, c'est toujours time to market, hein, c'est-à-dire être le premier sur le marché pour l'emporter. Et puis eux, ils avaient le soutien du gouvernement, de la DARPA et de l'entièreté du gouvernement. Ils avaient des millions et des millions de dollars pour développer ça. Ils l'ont développé, ils ont mis 8 ans à développer TCP/IP. 8 ans. Et ils l'avaient fait ça en 2 ans. Et ils n'ont pas tout compris, ils n'ont pas tout bien développé. Voilà, Cyclades. Mais TCP/IP existe. Louis a toujours dit que l'Internet que l'on utilise tous les jours était construit sur un marécage, c'est-à-dire que ce n'est pas fiable du tout.
Ça, on va y revenir. Ça, écoutez, on va y revenir en deuxième partie d'émission, voir comment refonder éventuellement Internet. Est-ce que les travaux de Pouzin sur ce sujet. Mais moi, j'aimerais revenir d'abord sur le. Finalement, vous avez affaire à un polytechnicien, hein, cet Ambroise Roux, hein, comme le président de la République, hein, cet escogriffe, ce grand escogriffe de Giscard d'Estaing, de Giscard, et paix à son âme. Et donc, finalement, on pourrait se demander pourquoi la France a loupé le coche. Pourquoi la France a loupé le coche? Est-ce que c'est seulement l'incompétence, la suffisance de ces polytechniciens, alors qu'a priori, eh bien, un Saint-Cyrien comme De Gaulle ou un Normalien comme Pompidou avait vu l'intérêt de développer justement ces grands travaux à la française? Est-ce que c'est aussi finalement une trahison? Est-ce que c'est le début des trahisons avec Giscard, justement, de la France, du fait qu'il n'y aura jamais d'Airbus de l'Internet français, parce que tout simplement, eh bien, on est vendu aux Américains dès les années 70, et que donc les Américains vont utiliser eux-mêmes l'ensemble de ces recherches découvertes pour développer et prendre la mainmise. Ce qui finalement, en plus, c'est une erreur. Alors, donc, ça, j'aimerais cette question-là. Et puis, peut-être aussi la deuxième question, parce que vous êtes aussi vous-même une spécialiste, Chantal Lebrun, de ce genre de sujet. C'est une voie de garage, à un moment donné, le Minitel, on le sait bien, par rapport à Internet. Et donc, pourquoi est-ce que la France, pourquoi ces chers polytechniciens ont mis finalement la France dans une voie de garage? Mais déjà, est-ce qu'il n'y a pas trahison par nos élites?
Tout à fait. Donc VGE était très atlantiste. Tout ce qui venait des États-Unis, c'était la parole de Dieu le Père. Les États-Unis étaient nos amis, ils étaient là
C'est
pour nous
ça.
aider, etc. Donc de fait, il y a l'incompétence crasse de ces gens qui n'ont pas de vision. On peut être
C'est
très
ça.
intelligent, être polytechnicien et n'avoir aucune vision.
C'est ça.
Voilà. Et puis une vision surtout humaniste, c'est-à-dire une vision de développement pour l'humain et pas pour son pognon, pour son propre pognon, ce qui était le cas d'Ambroise Roux. Il ne voyait que les choses à très court terme et ce qui pouvait lui rapporter. C'est
Donc
tout.
déjà un conflit d'intérêts, ce qu'on a appelé ensuite les conflits d'intérêts. Bien.
Complètement. Complètement. Louis n'a jamais eu cette vision-là. Louis a toujours, il a travaillé toute sa vie, beaucoup, 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 et de façon extrêmement pour le plaisir de trouver. C'est un inventeur qui trouve. Louis.
Oui. Un chercheur qui
Un
trouve, un chercheur qui
chercheur qui
trouve, comme De
trouve.
Gaulle en voulait justement.
Exactement, exactement. Donc, de fait, il y a ce côté atlantiste qui fait que Louis était balayé parce que Louis, il connaissait bien les États-Unis, il en connaissait les bons côtés et surtout les très mauvais côtés.
Voilà. Et puis il avait quitté les États-Unis justement, donc la
Exactement.
captation par les États-Unis, par l'Amérique, de ce savoir-faire, eh bien, ce qu'ils n'obtiendront pas directement de lui, ils l'obtiendront finalement par le biais de lobbying. Hein, Ambroise Roux, c'est un polytechnicien lobbyiste, hein, éminence grise des hommes politiques de l'époque. Hein. On le
Exactement.
compare un peu à Attali aujourd'hui, c'est ça?
Oui, exactement. C'est l'homme de l'ombre, tout à fait.
Mais qui a des sociétés, donc qui poussent ses propres intérêts, d'où le conflit d'intérêts.
Oui. Lui, c'était son intérêt. Il y a un livre que vous n'avez pas encore cité qui doit être connu aussi déjà.
Allez-y.
C'est Comédie française avec un S à Comédie française de Éric Reinhart qui
Oui.
raconte. Parce que Éric Reinhart, qui est quelqu'un de très fin et de très intuitif,
Oui.
avait rencontré Louis, mais en 2015, je crois, comme Louis rencontrait tous les gens qui voulaient le voir pour parler de Cyclades, pour parler de tout ça, Louis disait jamais non, que ce soit un gamin pour faire un exposé ou un industriel ou autre. Louis disait toujours oui, il prenait le temps. Et quand Éric a discuté avec lui pendant 2 heures, il s'est dit, mais il y a bien quelqu'un qui a dit non un jour quand même. Qui est cette personne qui a dit non? Et il a fait sa propre enquête et c'est ce livre qui fait l'enquête sur qui a dit non au projet Cyclades et pourquoi. Et qui met en lumière le rôle d'Ambroise Roux.
Oui. Eh oui, et voilà un peu comment finalement la France, encore une fois, avec ses ingénieurs ingénieux, de talent, eh bien c'est à la fois Parfois, c'est l'excès de bureaucratie qui est à l'origine. Mais avec ce plan calcul, justement, il y avait cette volonté, cette compréhension qu'avait eu De Gaulle, j'ai envie de dire, et poursuivi par Pompidou, de mettre des grands travaux, de mettre à l'abri de la bureaucratie, les grandes recherches et les grands axes des chantiers, d'État. Il savait que l'État était nécessaire, mais qu'il fallait protéger, travaux de l'emprise d'un État bureaucrate. C'était tout le génie de ces grands travaux et grands projets gaulliens, eh bien, on
Garder,
voit.
oui, et les garder au sein de la France, surtout en Europe,
Et les garder au sein de la France, bien évidemment. Et ça, eh bien, c'est ça qui va être laminé avec le néolibéralisme, dont Giscard est le premier président, totalement lié à cette nouvelle idéologie qui déferle en Occident. Mais qui aura évidemment, qui est avant tout au bénéfice exclusif des États-Unis,
Exact.
qui en sont les principaux bénéficiaires. Donc on voit comment finalement, eh bien.
Les bénéficiaires, mais aussi les payeurs, parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis ont dépensé des millions et des millions pour ça. Eux, ils ont, mais parce qu'ils ont une
La
vision.
finance.
La finance, et ils ont une vision. Ils disent, pour avoir cette technologie, pour vraiment inonder le monde et tout, il faut mettre de l'argent. Allons-y, on met de l'argent et on y va. Ce que nous, on a été incapables de faire pendant très 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 longtemps quand même.
Oui, qu'on s'est mis à arrêter de faire dans les années 70,
Exact.
70-80.
Oui.
Mais oui. Et petit à petit, et jusqu'à d'abord, on a arrêté d'investir, et puis après, petit à petit, on a vendu aussi. Hein,
Oui.
nous, les... Ça, c'est l'autre période sur laquelle nous reviendrons dans la seconde partie d'émission, peut-être avant le bobino, hein, qui est une très courte coupure dans cette émission. On n'a pas. On aimerait. Peut-être avoir quelques informations vous concernant. Qui êtes-vous, Chantal Le Brument, dans cette saga justement de Louis Pouzin? Comment en êtes-vous été amené à vous intéresser à ce sujet et à porter aujourd'hui cette mémoire?
Alors, bon, moi, je suis quelqu'un qui a fait des études scientifiques, mais qui n'a pas du tout poursuivi. Moi, je suis tombée dans les années 70, j'ai fait des choses très, très intéressantes, complètement décalées. Et à la fin des années 80, j'ai entendu parler d'Internet. J'ouvrais des yeux ronds, je ne savais pas trop ce que c'était. On m'a montré, à l'époque, fallait aller de Gopher, Mosaïque, fallait d'un point à un autre. Enfin, c'était très compliqué, mais c'était très, très intéressant. Et à un moment donné, je m'occupais, je m'intéressais beaucoup au lancement des navettes spatiales de la NASA. Et la NASA, un jour, a envoyé un fax en disant, pour les lancements de navettes, ceci est le dernier fax. Si vous voulez avoir les lancements des prochaines navettes, allez sur nasa.gov. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai découvert ça, donc je me suis dit, on m'a dit, bah, écoute, toi, tu es la techno et tout, tu aimes bien ça, va te former. Donc je suis allée me former, je suis à l'époque, il y avait eu un espèce de petit truc sur 2 jours à l'université Lumini de Marseille. Donc j'avais été, à l'époque, il n'y avait pas de TGV, hein, donc en teuf-teuf à Marseille pendant 2 jours pour me former. Et dans la salle, on était 50. Et parmi les 50 dans la salle, c'était vraiment les 50 Français qui ont vraiment lancé Internet en France. Et parmi ces gens-là, il y avait donc quelqu'un qui a lancé l'idée de se retrouver tous les ans pour savoir où en était Internet et qu'est-ce qu'il y avait comme nouveauté. Il y avait déjà plein de choses. Il y avait il y avait Monsieur Billot qui avait fait quelque chose à Paris-Bas. Qui faisait une fois par mois, qui faisait des réunions à Paris-Bas sur l'Internet, qui était passionnante. Et puis, il y a eu ce colloque qui était à Autran, au-dessus de Grenoble, qui était pendant une semaine en janvier, au mi-janvier. C'était dans les locaux d'une colonie à Autran. C'était extrêmement bricolage. Mais vraiment, c'était la première année, on était peut-être une vingtaine. dont Louis Pouzin. La deuxième année, Louis avait une grosse grippe, donc il n'était pas là. Mais après, il a été là toutes les années, donc depuis 1995 jusqu'à 2009. Ça s'est tenu Autran. Donc j'ai connu Louis dans ses réunions d'Autran. Et notamment une réunion qui restait complètement incroyable, où heureusement il y a eu des minutes qui ont été éditées, donc en papier, sur les colloques et sur les discussions. Et il y avait Microsoft qui avait envoyé un de ses représentants France pour parler de Microsoft, évidemment, hein, lobbying, ça marche toujours. Et Louis, dans la salle, ne parlait que de Microchiotte et de Windows. Et alors, tout le monde, ah, oh, quelle horreur et tout. Mais Louis a toujours été comme ça. Il a toujours dit ce qu'il pensait avec le sourire. Il s'est pas fait beaucoup, beaucoup d'ennemis. Il s'en est fait quand même pas mal, mais pas trop, par rapport aux horreurs qu'il disait aux gens avec le sourire. Et il expliquait que Microchiotte, donc, était un logiciel qui n'était pas abouti, que c'était les gens qui achetaient ce logiciel qui faisaient le développement. Et que c'était une pompe à information pour les États-Unis qui était derrière et qui pompait toutes les infos. À l'époque, oh là là, tu es vraiment Louis, tu dis n'importe quoi, oh là 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 là. Et moi, ça m'avait paru très pertinent et voilà. Donc, quand j'ai eu moi dans mon entreprise, après j'ai un peu bifurqué, j'ai commencé à aller dans des grands groupes pour faire de l'Internet parce que en 98, l'Internet dans les grands groupes était complètement inconnu. Les gens n'avaient même pas de site web dans des grandes sociétés. Donc, je suis rentrée dans une société qui était absolument géniale, qui s'appelait Synthélabo, donc un laboratoire de médicaments, et qui était donc la partie communication était gérée par un mec génial aussi, Philippe Pignard, qui faisait des livres scientifiques à destination des pharmaciens, des médecins, du milieu scientifique. Et Philippe me dit, mais écoute, il faut absolument que les gens découvrent Internet. Un petit site Internet, ça suffit pas. Il faut vraiment qu'ils sachent ce que c'est parce que sinon, ils vont être balayés. Et donc, moi, j'avais fait des colloques pour les médecins, et je m'étais dit, avec qui je vais faire ça et tout. Bah, évidemment, Louis Pouzin, hein, qui connaît les États-Unis. Qui a assez d'entre-gens et surtout de présence pour en imposer à des médecins, parce que dans les années 90, une femme comme moi, j'en imposais pas aux médecins. Hein. Pas médecin moi-même, donc lui cousin. Donc on a fait ça, et puis ben voilà, c'était en 98 et on s'est jamais quitté.
Eh ben, formidable. Merci Chantal Le Brument pour ce témoignage. Écoutez, question d'auditeur, j'ai vu, il y en a. On va y répondre et puis on va développer la suite, à savoir comment repenser justement l'Internet, sachant que Louis Pouzin a un regard extrêmement critique sur. Eh bien, que ce soit Microchiotte, en effet, Microsoft, par exemple, ou Windows, et oui, Windows, dont on voit aujourd'hui, en effet, toutes les limites avec le système Bill Gates. Très bien, Chantal, je vous propose, et à la technique par la même occasion, une très courte pause. C'est le Bobino, et on revient tout de suite après ça, si vous le voulez bien.
Un euro par auditeur, un euro par mois, un euro peut nous aider, peut nous sauver. L'été est la période la plus difficile de l'année, mais Radio Courtoisie reste fidèlement à vos côtés chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour nous sauver et préserver notre liberté d'expression qui vous est chère, ne nous abandonnez pas maintenant. Avec un seul euro, pendant l'été, donnez-nous les moyens de continuer à parler. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75016, Paris.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans le livre journal de géopolitique profonde. Nous sommes en compagnie de Chantal Le Bruman. Chantal Le Bruman qui est co-auteur d'un ouvrage sur Louis Pouzin. On rappelle aussi le livre d'Éric Reinhardt, hein, comédie française, fameux et qui résume un peu l'enjeu de ce que nous avons développé dans cette première partie d'émission, c'est-à-dire finalement la naissance d'Internet et comment ne pas être intrigué, eh bien, qu'un ingénieur français, inventeur du système de transmission de données qui est à la base de la révolution numérique, ait été brusquement débranché, j'ose dire, interrompu dans ses recherches par les pouvoirs publics, et ce en 1974. Voilà, eh bien, les investigations justement d'Éric Reinhardt vont le conduire vers un puissant industriel, un certain Roux, qui, brillant, aussi brillant soit-il, eh bien, est un lobbyiste. Et donc, on va découvrir avec Éric Reinhardt cette France, une certaine France, celle du pouvoir des lobbies. Et oui, ça, c'est tout à fait, bien sûr, essentiel. Et le livre, on rappelle le livre coécrit par Chantal Le Bruman et Fabien Soyer, avec une préface de Corben, Louis Pouzin, l'un des pères de l'Internet. Alors, peut-être le moment, avant de développer la suite, se pencher sur les questions que les auditeurs ou les remarques que les auditeurs ont pu nous faire. Alors, il y a des questions sur la sur Louis Pouzin. D'abord, cette auditrice donc sur la revue de presse. Bonjour à tous, le monde est dominé par des pyromanes. Trump qui allume le feu pour mettre à bas l'économie de l'Occident. Donc une guerre économique. Macron qui brûle la France de toutes parts. Tel Attila. Que reste-t-il de notre pays ? À ce jour, von der Leyen, qui réduit en cendres la liberté du peuple. Bien cordialement. Alors, des questions par rapport à eh bien, le standard de Radio Courtoisie. Merci Patrice pour ces retours. Alors, une question pour vous, Chantal Le Bruman. Quelle est la spécificité de Transpac par rapport à d'autres réseaux?
Alors Transpac, ce que moi je peux en dire, puisque je ne suis pas spécialiste de Transpac, moi je suis spécialiste de l'Internet et de Louis Pouzin, c'est pas du tout pareil. Transpac, c'était un système des PTT, Louis parlait des pététouilles.
Hein, des pététouilles, très bien.
Donc voilà, donc les PTT, donc quelque chose de très rigide, un cadre très rigide, très... très administratifs, qui, eux, voulaient qu'il y ait un réseau fermé, mais qui leur rapporte. Parce que le Minitel, vous rappelez que c'était payant. Hein, les gens payaient leur communication. Parce que, eux, ça ne leur venait pas à l'esprit qu'on puisse faire un réseau comme Louis l'avait inventé, dans le monde entier comme ça, et gratuit, quoi. Oui. On payait quand même ses communications pendant très longtemps. Hein,
bien sûr.
Mais bon, donc Transpac, c'était un réseau très fermé, là vraiment, qui était donc sur la France uniquement, donc il n'était pas du tout, qui n'était pas possible de développer à l'international. Et donc, dès le départ, dès qu'on dit ça, déjà, c'est mort, quoi. C'est mort, on ne peut pas penser. Louis est quelqu'un qui a des visions, qui a toujours un temps d'avance, et pour lui, c'était complètement mais impensable de développer quelque chose qui était au niveau uniquement de l'Hexagone, même pas de l'Europe, de l'Hexagone. Donc, je ne pense pas qu'il est mort de sa belle mort, comme c'était prévu. Ça a mis du temps, hein, ça a mis beaucoup de temps, et Louis a eu beaucoup de Minitel chez lui. Il avait des Minitel que personne d'autre n'avait. Il avait vraiment des choses extrêmement rares, qui ont été remis à une école d'ingénieurs où Louis participait souvent.
Une auditrice, vous parlez de Louis, mais vous ne précisez pas le nom. Comment ça, chère auditrice? Ah, Louis Pouzin, Pouzin, P-O-U-Z-I-N.
Voilà.
Allons, bien sûr que si, on a de cesse de dire que c'est Louis Pouzin, chère auditrice. Allons. Alors, bah dites-nous peut-être d'ailleurs, Chantal, qu'est-ce que devient Louis Pouzin? Parce qu'on en parle au passé, mais il est toujours en vie.
Oui, Louis a 95 ans cette année. Hélas, il est doublement prisonnier. Alors, bon, les médecins avaient découvert qu'il allait avoir sûrement Alzheimer en 2020, mais contrairement à ce qu'on peut penser, les médecins n'ont pas tous le courage de le dire. Donc, personne n'a eu le courage de le dire. Il n'y a eu aucune annonce. Le mot Alzheimer n'a jamais été prononcé, ni quand on a fait son IRM, ni par son médecin traitant, à aucun moment. Alors, on parlait de son cervelet est en Shelton 3, enfin des choses comme ça. Mais bon, le mot Alzheimer n'a jamais été prononcé. Et moi, je m'en suis rendu compte en janvier 2024, parce que je trouvais que c'était pas possible. Il oubliait des choses évidentes, je retrouvais les chaussons dans le frigo. Enfin bon,
Ah.
il y avait quand même des signes. Il était très très faible, il dormait tout le temps, c'était pas du tout son habitude. Il dormait pas d'habitude. Il dormait 4-5 heures.
Oui, on me disait qu'il travaillait toutes les nuits.
Oui. Et à un moment donné, Louis m'a demandé de lui sortir un article à un ami américain, John Day, dont on parlera après, auquel il voulait absolument répondre, et qu'il n'y arrivait plus dans son ordinateur, il ne comprenait plus. Et donc c'est moi qui ai pris son ordinateur, où on travaillait toujours l'un en face de l'autre. Hein. Chacun sur son ordinateur, moi sur mon Mac, lui sur son petit PC portable minuscule. Et j'ai retrouvé par hasard, parce que Louis est un original dans la pensée, mais dans
Oui.
l'action aussi, il a toujours eu une façon de gérer ses papiers, ses arborescences. C'était complètement, mais incroyable, auquel on n'aurait jamais pensé, quoi. C'était un truc très, très original. Et dans son arborescence, j'ai vu un mot santé. Je me dis, tiens, il a un truc santé, c'est bizarre. Et j'ai ouvert et j'ai trouvé le compte-rendu de l'IRM qu'il avait reçu et qu'il avait classé, mais que moi, je n'avais jamais eu. Et là, moi, scientifique de base, je vois le cervelet est en Shelton 3. Moi, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire Alzheimer. Donc, j'ai compris qu'il avait Alzheimer en janvier 2024, uniquement. Donc, j'ai prévenu ses enfants une fois le choc passé. Je leur ai envoyé un courriel disant il savait avec le compte rendu de l'hôpital en disant ben voyez là il n'y a pas photo quoi. Ses enfants ont vu de visu qu'effectivement il était très très affaibli et que ça n'allait pas du tout puisqu'on avait passé 10 jours de vacances avec une de ses filles qui ne voulait pas le croire. Mais même après, elle ne voulait pas le croire. Elle me disait faudrait demander au médecin de faire une prise de sang pour voir si c'est bien Alzheimer. En 2024, même en 2026, ça n'existe toujours pas, ça. Hein? Voilà. L'IRM, c'est on peut pas aller au contre l'IRM. Hein? On voit tout.
Oui.
Voilà. Donc ça, c'est le premier enfermement, c'est l'Alzheimer où il avait des périodes où il était très clair et puis il y avait des périodes de confusion totale et puis des périodes où il dormait, beaucoup de périodes où il dormait beaucoup et puis il perdait ses forces. L'Alzheimer, on perd ses forces. Et puis, hélas, en octobre 2024, ses enfants ont vu que ben, il pouvait plus se défendre. Hein. En novembre 2024, il était très faible, il marchait très difficilement, il parlait encore, il parlait. Mais, et puis, Louis est sourd depuis Polytechnique, puisqu'à
Oui.
Polytechnique, très distrait, il n'avait pas compris qu'il fallait mettre des bouchons d'oreilles pour des salves. Et donc, il était juste à côté, donc ça lui avait éclaté le tympan. Et au fil des ans, bah, il est devenu sourd. Donc, il était appareillé depuis toujours. Tout le monde
D'accord.
savait que Louis était appareillé. Et le 3 octobre 2024, je tenais les enfants au courant de tout ce que je faisais. Mais les enfants, je n'avais plus aucune nouvelle. Hein. Alors là, de mai jusqu'à octobre 2024, je suis restée toute seule avec lui à me débrouiller comme je pouvais. Tous les gens qui sont aidants savent à quel point c'est fatigant, crevant
Sûrement.
et déprimant.
Bien sûr.
Et le 3 octobre 2024, on sortait d'un hôpital. Sur le parking désert de l'hôpital, les enfants sont arrivés avec un petit-fils très grand, très costaud et qui fait très peur. Le petit-fils m'a collé au mur. Ils ont pris Louis Ils ont laissé le fauteuil roulant sur place, ils l'ont mis dans la voiture et sont partis. Et Louis et ses enfants, ils sont partis à 1 000 km de chez nous. Et c'est
Oui.
enfants. Moi, j'avais rien vu. Ben, moi, je m'occupais de Louis, hein. Je ne pouvais pas tout voir. Hein. Donc, j'avais rien vu. Au mois d'août, on vient prendre papa parce qu'on va l'emmener au restaurant. Bon, d'accord, sa fille arrive, prend son père. Ouais. Elle le ramène à 5 heures. Donc, moi, j'étais quand même, je voyais l'heure tourner. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Il le ramène. Donc, je l'ai mis au lit jusqu'au lendemain. Et le lendemain, je lui demande, il était comment le restaurant? Et lui me dit avec beaucoup d'humour, un humour pincé, le sandwich n'était pas terrible. Voilà. Et moi, le professionnel en plein mois d'août, bah, il a vaguement téléphoné au médecin traitant de Louis, qui me connaissait évidemment très bien et qui connaissait parfaitement notre vie commune. Et il a essayé une fois d'appeler, puis comme au mois d'août, le médecin était en vacances, bah, il a signé le papier. Voilà. Voilà. Donc.
Bien triste histoire, bien triste
Et
histoire.
en France, le quatrième âge n'est absolument pas ni respecté, ni même on s'en occupe vraiment pas. On met les gens dans des EHPAD qui sont quand même des mouroirs, qui sont plus ou moins bien. Celui où est Louis n'est pas trop mal, mais c'est quand même un EHPAD. C'est-à-dire que le juge, en février 2025, a trouvé incroyable que j'ai découvert que lui avait enlevé ses appareils auditifs. Sans appareil auditif, quand on est sourd, ça n'arrange pas le cerveau.
Non.
Et on n'arrive plus à parler. C'est-à-dire que là, ils étaient sûrs qu'ils ne me réclameraient pas. Voilà.
Terrible, terrible, terrible ces histoires de famille. En tout cas,
Ah
voilà,
oui,
d'un Louis
famille,
Pouzin
c'est
est
terrible.
atteint d'Alzheimer
Oui.
et n'est plus en mesure aujourd'hui de continuer ses recherches.
Non. Non.
Donc. Par contre, et j'aimerais en faire la deuxième et dernière partie de cette émission, Louis Pouzin, eh bien, avait pensé, parce que justement, il était extrêmement critique de la façon dont l'Internet avait été bâti sur un marécage. C'est bien ce que vous avez dit au début, et je vous ai arrêté à ce moment-là, parce que je veux pouvoir le développer maintenant. J'aimerais un petit peu que vous nous parliez du regard critique de Louis Pouzin sur l'Internet et la façon dont il espérait, imaginait pouvoir refonder Internet, Chantal.
Oui, alors Louis a toujours été très critique sur l'Internet parce qu'il en connaissait les faiblesses du développement fait par les Américains, puisqu'ils ont fait ça très vite, time to market, hein, donc très très vite pour inonder le marché, et qu'ils ont fait beaucoup de simplifications sur Cyclade. Ils n'ont pas développé Cyclade, ils ont développé TCP/IP, qui est très bien, hein, mais ils ont développé ça à partir d'un projet qui était un projet de développement. Or, c'est sur ce petit projet qui est un projet de test qu'on a développé l'Internet mondial. Le monde entier développe son économie sur quelque chose qui est un truc de test qui n'est pas finalisé et qui est plein de trous. Internet est plein de trous partout. On met des patchs, hein, on met des patchs un peu partout pour dès qu'il y a un truc, hop, on patch. Voilà. Internet est dans la main des Américains malgré tout ce qu'on a pu faire. Puisque dans les années 98, il y a eu. C'est la Tunisie qui a demandé à l'ONU de s'occuper de l'Internet parce que ce n'était pas possible que l'Internet soit entièrement aux mains des Américains qui décidaient tout. Le point TN pour la Tunisie, le point FR pour la France et tout, du jour au lendemain, clac, ils pouvaient éradiquer quelque chose. Hein. Donc, ce n'était pas possible. Donc, il y a eu un sommet de l'ONU. Il s'est appelé le WSIS en anglais, le SMSI en français, qui s'est tenu à Genève à l'ONU. Les PrEPCOM, heureusement, se sont tenus, parce que quand on a des gros sommets, il y a des PrEPCOM qui durent environ un an, où on discute de quoi on va parler, les sujets. Et les PrEPCOM étaient à Paris, dans des locaux de l'ONU à Paris, dans le 15e. Donc, c'était génial. Moi, j'étais à 2 pas. Moi, à l'époque, j'étais à SNECMA. À l'époque, SNECMA, donc c'était tout près, c'était bien. Donc, on a participé à ces PrEPCOM parce que Louis y était bah, de notoriété, bien sûr. Et puis aussi parce que on a demandé au gouvernement, à tous les gouvernements de l'ONU, reconnus par l'ONU, d'envoyer des ambassadeurs de leur ministère Internet. Alors en France, le ministère Internet, hein, vous vous rappelez, c'est Chirac et le mulot, donc on a été bien loin. Personne n'avait Internet dans les ministères en France, enfin, c'était extrêmement archaïque. Donc ils ont nommé un ambassadeur, parce qu'il fallait quelqu'un qui ait le niveau d'ambassadeur, qui s'est trouvé être un ami de Louis, Michel Pessig, dont je salue la mémoire. Et Michel donc a demandé à Louis de venir parce que lui, Michel, il n'avait pas les compétences, il avait le bagou, il était ambassadeur, il savait parler, il savait utiliser son réseau, mais il ne connaissait pas assez bien tout pour être pertinent. Et donc Michel a demandé à Louis de venir et moi aussi, m'a demandé aussi à moi puisque moi j'étais dans l'industrie, donc j'avais une vision d'industrie que Louis n'avait pas. Et il nous a nommés tous les deux dans la délégation française pour les négociations qui ont eu lieu en Genève en 2003 et à Tunis, puisque c'est les Tunisiens qui avaient demandé le sommet, en 2005. Dès 2003, Louis a fait vraiment une forte, forte impression à tout le monde, parce que d'abord, il avait quand même l'aura de celui qui a développé Cyclades et qui connaissait. Et Louis a expliqué aux gens pourquoi est-ce que Internet c'est quelque chose de simple et que non, c'est pas si compliqué que ça et que les États-Unis ont mis beaucoup d'argent pour le développer peut-être, mais développer un Internet, ce n'est pas si compliqué que ça. Et il y a eu quelque chose de très intéressant qui s'est passé puisque les discussions qui étaient beaucoup de blabla sur les femmes dans Internet, les enfants, les ceci, les minorités, etc. Et Louis a dit, mais le vrai problème de l'Internet, c'est la gouvernance de l'Internet, c'est pas autre chose. Et la gouvernance, c'est la langue.
Oui.
Hein? Parce que Louis a toujours dit, la seule chose que les Américains ne savent pas faire, c'est le multilinguisme. Ils en sont incapables parce qu'ils pensent que tout le monde doit parler comme eux.
L'anglais.
L'anglais. L'anglais américain, et un anglais
Bien
très
sûr.
appauvri, pas n'importe quel anglais. Donc,
Tout à fait.
voilà. Donc, en fait, il y a une soirée et il s'est trouvé que le président de cette première session à Genève en 2003, Adama Samaseku, qui était un Malien très cultivé, était un ami personnel de Michel Pessig. Donc, on avait un accès à Adama Samaseku pour discuter avec lui et pour parler de cette gouvernance de l'Internet.
Oui.
Au début, c'était une petite réunion, on était 10-12 dans une salle, et à la fin, c'était dans un amphi. Et la gouvernance de l'Internet, je crois que c'est l'article 72 du SMSI qui est l'article le plus important par rapport à tous les autres. Et Louis, un soir, les Chinois sont venus le voir, parce que les Chinois étaient là, quand même très intrigués, ils sont venus voir et ils ont dit à Louis, très très, considère vraiment que Louis, c'est le père de l'Internet parce que c'est lui qui a pensé ce réseau en
Oui.
premier. Et les Chinois sont venus voir Louis en disant, est-ce que vous pouvez, monsieur Pouzet, nous expliquer ce que c'est qu'Internet? Et Louis, dans un amphi, en bas de l'amphi, a expliqué à 10, 12, 15, 20, 50, 200 personnes ce qu'était Internet. Internet, c'est un numéro IP, Internet Protocol. Si vous avez un numéro IP, vous pouvez faire un Internet avec un numéro IP. C'est tout. Et il a expliqué tout aux Chinois comment construire un Internet, que ce n'est pas si compliqué que ça, etc.
Oui.
Il leur a donné aussi des documents primaires qui étaient assez importants. Et les Chinois, en 2003, ils étaient très très présents, il y avait une délégation immense. Et en 2005, à Tunis, il n'y avait plus que trois représentants, le petit monsieur Wang et puis les autres, et puis c'est tout. Parce qu'entre 2003 et 2005, les Chinois ont fait leur propre Internet en chinois. Voilà, ils ont compris ce qu'avait dit Louis. Et
Oui.
depuis 2005, la Chine a son propre Internet en langue chinoise et qui est 1000 fois plus rapide que notre TCP/IP à nous, bien sûr, puisqu'ils ont fait un vrai Internet, ils ont vraiment mis Cyclades en action.
Ah, pour vous, les Chinois ont appliqué
Ah,
les
bien sûr.
théories de Louis Pouzin.
Bien sûr, bien sûr. Et quand on allait en Chine, Louis était reçu un peu comme un demi-dieu là-bas parce que eux considèrent que le vrai père d'Internet, c'est Louis Pouzin. Et c'est pour ça aussi que quand il y a des grandes entreprises en France qui ont, bon, tout le monde, que ce soit Peugeot ou n'importe qui, on a beaucoup de gens, c'est l'usine du monde, la Chine. Ça a été l'usine du monde. Donc les gens ont tous des entreprises là-bas. Et souvent, les gens couinent parce qu'on envoie un document Excel et puis ben, on n'arrive pas à l'ouvrir et pourquoi et tout. C'est tout simplement que là-bas, les trois quarts des gens n'ont pas accès à notre Internet à nous, mais l'Internet chinois. Et l'Internet chinois qui est en chinois, ils ont un Excel qui ressemble à l'Excel, mais qui n'en est pas un, que tout le code est en chinois. Vous pouvez envoyer votre Excel qui vient de votre entreprise, là-bas, les gens n'arrivent même pas à l'ouvrir. Et ça, il a
Alors,
fallu pas mal de temps pour que les gens s'en aperçoivent.
la Chine est le seul pays qui a fait son propre Internet ou vous avez d'autres pays qui ont fait la même chose?
Non, il y a d'autres pays qui ont fait la même chose, d'autres pays ou d'autres nations, par exemple le Vatican. Le
Ah.
Vatican a fait son propre Internet, mais on va y venir puisque c'est l'Internet de demain. De même que les Russes. Les Russes ont bien écouté aussi ce qu'a dit Louis Pouzin et
Mais pas les Français.
Ah
Pas les
non, non,
Français, nous non.
non, 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 non,
Les
Louis Poussin.
Européens, non.
Les Européens, non, parce
Ils sont
qu'il
à la
y a
solde des Américains.
oui, il y a un lobbying de Microchat qui est trop fort, qui est très, très fort. La France,
Microsoft.
oui. Et la France est un des pays où il y a le plus de lobbying pro-Microsoft. Et l'Europe, évidemment. L'Europe, évidemment. Oui. Donc, mais il y a d'autres pays qui se sont posés des bonnes questions suite à ces réunions, où ils étaient, bien sûr. Les Russes à Genève, leur ambassade est à deux pas de l'ONU. C'est un jardin immense en plein centre de Genève qui est magnifique. Et les Russes étaient là à chaque fois, chaque réunion. Bon, le matin, hein. Le matin, ils n'étaient pas là. Hein. Ils arrivaient les yeux jaunes et ils avaient du mal le matin. Ils cuvaient. Mais l'après-midi, ils étaient tout à fait pertinents.
On est au début des années 2000, hein, c'est ça, là, les
Oui.
réunions.
Oui, les réunions, c'était en 2003
D'accord.
à Genève.
Alors, parlez-nous justement du projet RINA.
Alors, RINA, c'est Recursive Internet Quark Architecture. RINA, c'est pas Louis qui l'a inventé, RINA. Enfin, inventé. C'est un Américain, un copain de Louis, qui s'appelle John Day, qui a fait
Ouais.
un énorme, ce bouquin énorme que Louis a reçu en 2009.
D'accord.
John lui a envoyé en disant, écoute Louis, voilà ce que j'ai fait, tu me dis ce que tu en penses. Et j'ai vu mon Louis qui lisait que des documents techniques dans le bouquin en 2009, qui lisait, et qui a dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est génial.
Oui.
John Day, il a tout simplement mis en pratique ce qu'aurait dû être le datagramme. Donc c'est un Internet récursif, donc récursif, c'est-à-dire qui fait des boucles qui se tourne sur elle-même, fermée, sécurisée. C'est-à-dire que le nom des gens qui se connectent n'est pas en clair comme dans notre Internet. Nous, on ne peut pas sécuriser Internet parce que par défaut, tout est public, tout est ouvert. Rien n'est fermé. On met des verrous, mais il y a toujours une porte par laquelle on peut passer. Les verrous ne tiennent pas. Et cet Internet-là, il est récursif, il est penser de façon extrêmement maligne, ce qui fait qu'il est très très rapide. Alors,
Oui.
et il est surtout multiplateforme, c'est-à-dire que c'est un Internet. On n'a pas besoin d'avoir un réseau pour les mobiles, un réseau pour les ceci, pour cela, pour la télé, pour autre chose. Il est complètement multiplateforme. John
D'accord.
Day a envoyé ça à Louis. Louis a dit, mais c'est génial, il faut vraiment développer ça. Donc, il y a eu beaucoup de réunions.
Parce qu'il était devenu entrepreneur, hein, c'est ça, hein, Louis Pouzin. Une fois qu'on l'avait débarqué, débranché, finalement, c'est un polytechnicien, enfin en tout cas des logiques du plan calcul des Cyclades, il avait créé ses propres ses
Non, 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 non. Il est resté salarié,
chercheurs.
chercheur, cadre chercheur, jusqu'à la fin de sa vie
Où
professionnelle.
ça? Où ça?
Alors, il était au PTTouille, hein,
Ah
il
oui.
fallait bien aller quelque part. Et il a fini pour être. Il était professeur, chercheur à côté de. Dans le sud, dans un grand ensemble informatique. Il était chercheur là-bas. Et puis, bon, il était professeur, il adorait être professeur. Louis était un très, très bon prof. Hein. Les cours qu'il donnait à Paris 6, les gens s'en rappellent encore, quoi. Il était très, très didactique, il avait beaucoup d'humour, ça passait très bien. Et il adorait être prof. Donc, quand il a. Et puis, à 57 ans, il a dit, bon, j'en ai marre, quoi, je prends ma retraite. Il a pris une retraite anticipée à 57 ans.
Eh bien.
Et ce qui est bien pour vivre, mais au niveau salaire, à l'époque, c'était
Mais il a continué à chercher.
Ah ben, il n'a jamais arrêté. Il n'a
Alors.
jamais arrêté. Et quand il a appris à développer lui-même, ce qu'il n'avait jamais vraiment, qu'il avait arrêté de faire depuis le MIT. Donc, il a appris Bind, et il a appris le COBOL, qui est le vrai langage des vrais informaticiens. Chez lui, il y avait des bouquins épais comme ça de COBOL. La nuit, il apprenait le COBOL. Et donc, il a fait plein de choses comme ça pendant plusieurs années. Et en fait, quand on s'est rencontrés, quand il a redonné des cours avec moi sur Internet, la petite flamme de l'ingénieur est ressortie. Et il a décidé effectivement de créer ce que lui aurait voulu faire, c'est-à-dire un Internet libre et non américain.
Est-ce que serait Rina? C'est-à-dire que Rina, un petit peu, c'est ce que ça aurait été la suite de ses travaux, s'il y avait eu
Alors,
un Internet français.
oui, tout à fait, tout à fait. Mais lui, ce qu'il a fait, donc il a fait dans le cadre de TCP/IP, on a fait donc des entreprises, dont OpenRoute, pour faire donc des systèmes de sites Internet qui ne sont pas dans le giron des Américains, qui sont dans un Internet autre, créer son propre Internet, ce qui est tout à fait possible, c'est ce qu'on appelle le dark web. Hein.
Oui.
Mais en fait, la réalité, c'est que l'Internet géré par les Américains, il est tout petit comme ça, dans l'immensité de ce qui existe de dark web. Donc, nous, on a créé un système entièrement avec les serveurs, avec tout. Les gens, dès que lui demandait, ben, les gens disaient oui, oh oui, je veux bien travailler avec Louis Pouzin, oui, c'est plutôt intéressant. Et donc, dans le monde entier, on avait, à un moment donné, on avait plus de 49 serveurs dans le monde pour faire un Internet libre et gratuit. Et gratuit.
Et on en est où justement aujourd'hui de cet Internet?
Moi, depuis que Louis est malade, j'ai un peu laissé tomber. Hein. Donc, je relance OpenRoute Technologies, là, pour recommencer un petit peu. Mais pour faire voir, c'est plutôt pour de la démonstration, pour faire voir aux gens et pour les sociétés, pour tout ce qui est entreprise et tous les gens qui veulent. On parle du secret des affaires. Le secret des affaires dans Internet, ça n'existe pas. Hein. N'importe qui peut pirater ou vos courriels ou votre site web, tous vos échanges. Or, avec OpenRoute, ce n'est pas possible, puisque enfin, c'est plus difficile, même si c'est dans le TCP/IP, puisque c'est un numéro IP qui est inconnu des services. Donc, ça sert pour faire des intranets d'entreprise, des extranets, des sites Internet, bien sûr, mais c'est surtout pour communiquer de façon confidentielle et que ce soit confidentiel dans sa famille. On a eu beaucoup de succès quand on a lancé ça au début avec les gens qui voulaient leur nom de famille. On ne pensait
Oui.
pas à ça, mais les gens ont fait des réseaux avec leur nom de famille. C'est là où on a eu le Vatican qui nous a demandé, parce qu'en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'en France, on appelle ça une extension. Le nom technique, c'est un TLD, Top Level
Oui.
Domain, le premier niveau du domaine. Donc le point. Il y a le Vatican qui nous a demandé un point Vatican. Et depuis combien de temps? Fait longtemps. Depuis 2012, le Vatican a son point Vatican, et depuis 2014, ils sont entièrement voilà. Et depuis 2022, ils sont sous le nouvel Internet RINA, qui est autre chose. Qui est autre chose. L'Internet que j'ai fait avec Louis, donc cet Internet un peu parallèle qui permet
Oui.
de sécuriser et qui fonctionne tout de suite dans n'importe quel secteur, que ce soit une entreprise, une association, une famille, un projet. J'ai développé ça pour un projet dans la société où j'étais, entre les directeurs pour les fusions-acquisitions, par exemple. Même le directeur de l'informatique n'était pas au courant, parce qu'il ne fallait pas qu'il soit au courant. Hein, il y avait trois directeurs qui étaient au courant, c'est tout pour la fusion-acquisition. Et ben, on s'est servi de ce système OpenRoute. Ça a marché très très bien. Les gens étaient étonnés que ça marche, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Hein. Ça fonctionne très, très bien. Voilà. Et puis, il y avait ce projet donc, avec John Day. Et donc, avec John Day, donc, on est allé. Il y a eu des gens, donc des chercheurs européens qui se sont regroupés en disant, mais c'est très intéressant cette histoire de RINA, il faudrait voir ça plus près.
Oui.
Et alors, donc ils ont excusez-moi, ils ont eu des
Vous en
petits
faites.
guides de l'Europe, petits, hein, pas grand-chose, mais qui leur a permis de lancer quelque chose, d'une part à l'université de Barcelone et d'autre part à l'université de Dublin. Alors, à Dublin, c'était de la métronomie, donc qui calculait est-ce que les RINA, qu'est-ce que ça apportait en vitesse, en distance, etc. Et à Barcelone, c'était les usages. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce RINA? Et ça, avec lui, on est allé deux fois à Bruxelles pour défendre RINA, notamment une soirée à Bruxelles, les gens qui sont élus à Bruxelles ont le droit de faire une soirée par mois de dîner pour présenter des projets. Pour leur donner, bon, c'est une porte ouverte au lobbying, évidemment. Donc, avec lui, on y est allé deux fois. Et une fois, il y avait ben, par exemple, Madame Catherine Trottmann qui était là à l'époque. Il y avait des gens très importants. Et lui, il leur a dit, vous avez raté le train de l'Internet, ne ratez pas celui de RINA. Et il ne faut pas éparpiller l'argent, mettre des petits sous à droite, à gauche comme ça. Il faut y aller franco. Si vous pensez que c'est bien, il faut mettre de l'argent et puis le développer. Et vite. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont eu assez d'argent pour développer RINA. Ça a pris 2, 3 ans, pas plus. Et maintenant, bah, RINA n'est plus arrêtable, malgré tous les lobbyings qui se sont montés, puisque
Oui.
le plus grand contempteur anti-RINA à l'Europe, bah, c'était Thierry Breton, évidemment, hein, puisque son numéro 2 était quelqu'un de Microsoft.
Bien sûr.
Évidemment. Donc, Louis n'a jamais eu pu être entendu par rapport à RINA. On a essayé avec l'ANSSI, on a présenté le projet à l'ANSSI, qui a dit oui, c'est intéressant, c'est intéressant. Ils ont pris Microsoft. On a présenté le projet sur une friche industrielle en région parisienne qui est un ancien aérodrome et que les gens voulaient faire une sorte de Silicon Valley pour Paris et qui voulait baser sur RINA. Et on était à 2 jours de signer, on avait déjà une équipe, tout était prêt. Et puis bah, la dame qui préside la région parisienne, n'est-ce pas, a dit niet parce que ça va être Microsoft. Ben, résultat, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a
Ah
un
oui, de toute
centre.
façon, ce n'est que
Voilà.
l'Union européenne n'est qu'à le cheval de Troie des intérêts états-uniens et des grandes puissances financières états-uniennes, dont Bill Gates, bien sûr.
Voilà, évidemment. Donc, en fait, ben, quand vous alliez là-bas, ben, vous avez un centre Amazon qui marche très bien. Et puis, vous avez un laboratoire TP4, donc très secret. Et puis, vous avez deux, trois petites merdes. Mais il n'y a rien. Alors qu'il aurait dû avoir la Silicon Valley, quoi, vraiment. Alors, RINA, c'est quoi? RINA, c'est effectivement quelque chose de complètement novateur et qui marche vraiment très, très bien. Donc, maintenant, quand je dis que maintenant RINA marche, c'est qu'on ne sait même plus que c'est RINA. Par exemple, vous avez une chaîne financière qui est assez connue, Cardano, la chaîne Cardano, c'est basé sur RINA. Et pourquoi ça a emporté le marché? C'est parce que RINA va au moins 1000 fois plus vite que TCP/IP. Quand je dis au moins, c'est que les gens de Dublin n'ont pas réussi à calculer parce que au-delà de 1000, c'était plus calculable. Donc, c'était vraiment un avantage concurrentiel terrible. RINA est sécurisé par nature. Donc on ne peut pas rentrer dans RINA comme on rentre dans TCP/IP, c'est pas possible. Et on fait des boucles RINA au niveau d'un pays, donc la Chine par exemple, qui se met de plus en plus sur RINA au niveau de l'administration, hein,
Oui.
de l'administration politique, qui est aussi l'administration de développement informatique, hein, puisque
Oui,
je.
Chantal, on doit, c'est terminé, l'émission se termine. Voilà, je vous ai laissé parler le plus possible, mais voilà, de toute façon, tout est dit. Vous avez, je vous conseille, hein, chers auditeurs, d'acheter, de vous procurer le livre de Chantal Lebrunement et Fabien Soyer, Louis Pouzin, l'un des pères de l'Internet, aux éditions Economica. Vous avez là toutes les données évidemment l'avenir aussi. Eh bien, merci beaucoup, Chantal Lebrunement, pour la participation à cette émission. Je suis obligé de rendre l'antenne. Merci à Mickaël, merci à Patrice au standard. Excellente journée, chers auditeurs de Radio Courtoisie. J'espère que cette émission vous a intéressé et je vous dis à la semaine prochaine.
Vous venez d'entendre Géopolitique profonde de Nicolas Stocker, diffusé en direct sur Radio Courtoisie de 9h à 10h30 et réalisé par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.